France Culture.
À Voix Nue, épisode 5, une histoire incarnée. Bonjour Gérard Noiriel.
Bonjour.
Pour ce dernier épisode de nos À Voix Nue, je voudrais vous proposer de parler d'éducation populaire et de théâtre, les deux allant de pair en l'occurrence, puisque vous nous disiez au fil de ces entretiens à quel point vous étiez toujours soucieux de rendre l'histoire accessible au plus grand nombre. Et c'est d'ailleurs un point commun entre les sociologues, les historiens, les philosophes, les anthropologues qui vous ont inspiré, c'est qu'ils ont toujours tenté de démocratiser leur discipline. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour vous.
Effectivement, oui, c'est un peu le pendant de la défense de l'autonomie. C'est à la fois considérer que les sciences sociales, l'histoire, la science historique, c'est une discipline spécialisée qui nécessite de longues années d'études, de recherches, etc. Et donc qui ne peut pas spontanément s'adresser à tout le monde. Vous prenez un physicien, un mathématicien, le produit de leur recherche, ce ne sera pas accessible à tout le monde. Donc moi, je pars de ce principe-là. Pour notre propre discipline, un langage spécialisé, des revues, on a parlé de la revue Genèse, donc des revues spécialisées, des ouvrages aussi qui vont s'adresser à un public limité. Mais dans le même temps, effectivement, c'est l'idée de trouver des langages qui permettent de toucher des publics plus vastes, puisque c'est le propre des sciences sociales, à la fois leur problème de toucher tout le monde. Enfin, l'histoire, ça touche tout le monde. C'est la polysémie du mot même. Tout le monde a une histoire, tout le monde peut faire son histoire, etc. Et donc, c'est ça qui, effectivement, m'a beaucoup marqué dès le début de ma carrière. Et donc, j'ai essayé d'inventer à la fois des formes de pratiques et des langages permettant de traduire, moi j'aime bien ce mot de traduction.
Transposer, vous dites, oui, transposer.
Traduire les langages savants dans des langages accessibles à tous.
Est-ce que vous faites œuvre de vulgarisation ?
Ben, si on prend le mot vulgarisation au sens noble du terme, oui, oui, d'accord. Moi, je dirais popularisation. Ouais. Donc trouver des moyens de réfléchir aussi aux moyens. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé aussi sur des écrits de psychologie sociale, par exemple, puisqu'on sait très bien que c'est tout le rapport aux émotions. Pour ça, j'ai travaillé sur Brecht aussi. J'ai écrit un livre sur le théâtre, parce que Brecht, pour moi, était un modèle aussi, pas dans sa manière d'essayer de combiner la science. Bon, à son époque, c'était plutôt le marxisme, etc., et l'art. Brecht, c'est une tentative pour combiner les deux, c'est-à-dire la raison et l'émotion, pour faire pièce, pour s'opposer au nazisme. Il faut bien voir aussi ce contexte. Donc on est dans des logiques, vous voyez, qui, moi, me parlaient. Et j'ai essayé, à ma modeste échelle, disons, de faire la même chose avec des gens de notre association, des artistes, des comédiens, des comédiennes, pour transposer les résultats de nos recherches. Et c'est ce qu'on continue encore à faire aujourd'hui.
Bien sûr, Gérard Noiriel, mais ça va mieux en le disant. Tout cela, c'est à condition qu'on ait des compétences, des connaissances reconnues par des diplômes universitaires, qu'on soit historien, professionnel, un scientifique. Parce que, si je vous pose cette question, c'est qu'aujourd'hui, les usages de l'histoire se sont démocratisés et qu'on en voit de plus en plus les effets. Bon, Stéphane Bern, Laurent Deutsch sont dans les médias et utilisent aussi l'histoire. Donc, vous n'allez pas jusque-là, ça c'est de la récupération de l'histoire et justement le comité de vigilance de l'usage de l'histoire fait son travail de vigilance à cet égard, c'est ça.
Oui, c'est-à-dire que effectivement cette popularisation de l'histoire à laquelle vous faites référence, que ce soit par des journalistes ou bien le Puy du Fou, etc., ce sont des gens donc qui maîtrisent un certain nombre d'outils de communication, mais pas du tout le fond de la recherche historique. Donc ils vont aller vers ce qui est critiqué par les historiens et les historiennes compétents, c'est-à-dire des formes de vulgarisation qui sont conservatrices, qui alimentent une vision de l'histoire qui légitime les conservateurs, la droite, l'extrême droite, etc., les racines de la France, enfin toute une série de choses qui sont bien connues. Et l'efficacité de cela est très grande, puisque vous savez qu'aujourd'hui, il y a d'ailleurs une mobilisation des historiennes et des historiens universitaires.
Oui, mais ce que vous leur reprochez, c'est de penser pas bien, Parce que s'ils pensaient dans l'autre sens, pas conservateur ou pas d'extrême droite, vous trouveriez que c'est bien, ou c'est parce qu'ils n'ont pas les compétences requises, les qualités requises et qu'ils disent n'importe quoi. Vous voyez, est-ce que c'est détourné au profit d'un politique qui ne va pas dans le sens que vous souhaitez, ou c'est la base qui
Il y a un lien, je dirais, entre les deux. Mais pour moi, en tout cas, le fond du problème, c'est que les connaissances acquises par la discipline ne sont pas mises en œuvre dans ces projets-là, si vous voulez. Vous voyez, c'est la complexité de l'histoire. Si je prends les rapports de domination, de solidarité, les individus, notamment des classes populaires, le rôle des classes populaires, le rôle des luttes sociales, etc., est totalement, la plupart du temps, occulté dans
ces... Donc c'est la simplification qui vous pose problème.
C'est la simplification qui va dans le sens des stéréotypes, des préjugés habituels d'un certain récit classique sur l'histoire, qui a le vent en poupe et qui sert des intérêts, vous voyez, politiques. Ça, on peut le démontrer, comment M. de Villiers va exploiter le Puy du Fou pour nous défendre sa vision complètement rétrograde de l'histoire. Et ce n'est pas parce que c'est une conception de l'histoire contre une autre. C'est contre, je dirais, les acquis de la recherche historique. Moi, je plaide pour que, justement, ces traductions que j'essaye de mettre en œuvre moi-même dans mon rapport aux artistes, mettent en œuvre la complexité de l'histoire, ses contradictions, ses effets, etc. Mais dans des langages qui vont parler aux gens. Parce que, justement, c'est ça la difficulté. C'est si on fait uniquement un discours rationnel, voyez, voilà, d'universitaire ou de prof, on ne touchera pas le grand public. Et c'est la compétence. Moi, je dis, il y a des choses très bien faites ou qu'on peut admirer dans les émissions de Stéphane Bern ou du Puy du Fou, etc. C'est pas le fond, c'est toujours les reines, les rois, les machins, etc. Mais c'est par rapport à la forme, la capacité qu'ils ont, oui, de séduire un certain public. Alors, c'est sûr que quand on va dans le sens des stéréotypes, des préjugés, on a plus de chances de séduire le grand public que quand on va dans une critique des stéréotypes et des préjugés. Donc, nous, on a une difficulté intrinsèque, une difficulté objective. Mais ça ne doit pas être un argument pour démissionner.
Avant de venir à votre association, à votre collectif et à ce que vous faites sur scène également,
oui,
Gérard
oui.
Noiriel, vos ouvrages de synthèse, les interventions publiques médiatiques, parce que à la télé, par exemple, vous avez participé à une série de 40 documentaires d'histoire intitulée Racines au pluriel, qui a été diffusée sur France 3 dans les années 90-91, sur l'apport des immigrés à l'histoire de France. Et puis évidemment, notre radio, France Culture, où vous avez à la fois fait des chroniques et des podcasts. Tout ça participe d'un langage qui n'est pas le langage de l'histoire universitaire, académique, et qui va vers les gens.
Oui, tout à fait. Là, dans le podcast qui s'intitule donc La Voix des Invisibles, je prends des personnages qui ont été marginalisés dans l'histoire, dans notre histoire, à différentes époques, mais qui, à mon sens, ont contribué au développement de l'histoire. C'est le contrepoint, justement, de ce que pourrait faire Stéphane Bern avec les rois, les reines, etc. Vous voyez,
c'est les gens d'en bas.
C'est une démarche d'en bas, avec la difficulté qu'on a peu de sources, on a peu d'archives, parce que souvent, c'est des gens invisibles, donc qui n'ont pas écrit. C'est les autres qui ont écrit pour eux, sur eux, etc. Donc, il y a aussi une difficulté méthodologique, vous voyez, déjà, à aborder tout ça, puis ensuite le traduire dans un langage, pour le coup, qui soit radiophonique, qui soit adapté, qui puisse plaire à des auditeurs ou des auditrices. Donc tout ça, moi, j'apprends aussi. C'est grâce aux collaboratrices, collaborateurs de France Culture qui m'ont aidé, qui m'ont appris aussi à parler peut-être d'une manière moins classique, moins professorale, moins universitaire que ce que j'avais l'habitude de faire. C'est ça qui est bien. Moi, je suis toujours très heureux de ces formes-là aussi d'interdisciplinarité, on pourrait dire, parce qu'elles nous enrichissent aussi. C'est une vie beaucoup plus riche.
Et c'est ce que vous avez retrouvé comme grand plaisir avec la fondation de ce collectif, DAJA, D-A-J-A, qui fait travailler des artistes et des chercheurs, et puis votre compagne, on peut le dire, comédienne, Martine Derrier, avec lequel vous montez des spectacles. Alors, sur les assignations identitaires, de genre, sur Marie Curie, sur le racisme, vous avez créé des conférences théâtralisées.
Oui, alors, le point de départ, c'est effectivement parce que Martine Derrier faisait partie aussi du petit groupe de préfiguration que Jacques Toubon avait mis en place dans la Cité de l'immigration pour une réflexion, justement, qui associerait des gens du spectacle vivant, des universitaires, des profs, des travailleurs sociaux, etc., pour faire des projets qui puissent, voilà, avoir un impact dans, notamment dans les milieux populaires, voilà. Et quand on a démissionné, on s'est retrouvé orphelin par le fait d'un projet qui avait déjà pas mal avancé. Donc on s'est dit, bon, on démissionne de la cité, mais on reprend nos affaires en petit comité. On va créer une association 1901 qu'on a appelée, voilà, Daja, ça veut dire des artistes jusqu'aux acteurs culturels et aux chercheurs, etc. Bon, peu importe. Et notre premier projet, ça a été autour de l'histoire du clown chocolat.
Alors, le clown chocolat.
Voilà. Alors là, c'était mes amis artistes qui m'ont dit, alors, on voulait un projet justement qui concerne la question du racisme. Donc, mise en œuvre des recherches que j'avais faites sur l'histoire du racisme ou d'autres, etc. Mais dans un projet, voilà, théâtral, par le
fait. Et incarné.
Et donc, ils m'ont demandé, est-ce que je ne connaîtrais pas un personnage qui pourrait, vous voyez, être au centre de cette histoire-là, et donc, qui aurait été victime du racisme, mais qui ne serait pas enfermé dans un statut de victime non plus. Ça, c'était très important. Bon. Et donc, j'ai cherché, puis un jour, j'ai trouvé, en note de bas de page, une référence à un certain chocolat, à la fin du 19e siècle, etc. Et en tirant le fil, il y avait une histoire absolument extraordinaire. Et du coup, j'ai passé 6 ans de ma vie sur cet artiste-là, parce que c'est un esclave cubain qui est vendu comme ça à un marchand grand colon espagnol, donc qui était à Cuba, qui était un des plus riches de Cuba, qui l'emmène au Pays Basque et comme domestique, etc. Et puis les paysans qui avaient jamais vu noir veulent lui blanchir la peau. Enfin bon, et il se sauve et il devient, il est domestique chez un clown. Les clowns anglais étaient très célèbres à l'époque. Et puis il arrive à Paris et là, au bout de 2 ans, ça devient une grande vedette. Et c'est à ce moment-là qu'il a ce surnom de chocolat. Et ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est que ce sera le premier artiste noir qui aura vraiment une célébrité en France. Il va devenir très populaire, c'est ce qu'on démontre. J'ai écrit 2 livres sur lui. On a fait une exposition et on a fait, voilà.
Et il y a eu une adaptation au cinéma par Roche Dizem avec Omar Sy dans le rôle-titre.
Voilà, donc c'est à la suite de notre...
Paris réussi d'aller vers le grand public.
Ben voilà, là, effectivement, on n'avait pas prévu cet impact-là. Mais pour revenir à la question donc, du spectacle vivant, effectivement, donc, on a fabriqué un spectacle qui a eu plusieurs formes. Il y a eu des formes assez prestigieuses avec qui passaient sur les scènes nationales, etc. Et puis surtout, nous, notre association, comme vous le disiez, on a fait un seul en scène avec un comédien et puis après, une conférence qu'on a appelée théâtralisée, qu'on continue à faire maintenant, encore sur chocolat, mais sur beaucoup d'autres
sujets. Des noms à coucher dehors, la rhétorique de la haine, nos ancêtres les migrants, question de race.
Voilà, c'est le sujet.
Titre des spectacles.
Et donc, qui avait le soutien du Pass Culture. Belle initiative hein, que je défends et que j'aimerais bien qu'elle se poursuive quand même encore.
La bonne entendeur salue, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Parce que quand même, quand il y a des choses bien qui se passent actuellement, faut quand même les souligner et puis regretter quand elles disparaissent. Donc on travaille beaucoup avec des jeunes, des élèves, des lycées, voire des collèges, beaucoup en région parisienne, avec des jeunes qui peuvent avoir des préjugés divers ou voilà des stéréotypes dans la tête, etc. Donc c'est la question de l'antisémitisme, c'est la question du racisme, c'est la question du sexisme, etc. qui sont abordés.
Sous forme de fiction, mais avec un suivi d'un débat avec la salle. Alors, et parfois, par exemple, dans l'histoire du clown chocolat, vous, Gérard Noiriel, vous étiez sur scène et vous jouez votre propre rôle d'historien.
Je sais pas jouer d'autres rôles. c'est ça qui est problématique pour moi. J'ai essayé, mais bon. Mais disons que oui, alors dans la première version, effectivement, on était 3 sur scène. Il y avait un comédien qui jouait le rôle de chocolat, il y avait un musicien, et moi j'étais là, et je joue le rôle du conférencier de service, quoi. Donc il y a des interactions, etc. Je sors quand même un petit peu de mon rôle académique, hein, en prenant des postures, en disant ouais, des petites choses rigolotes, enfin bon. Donc les gens apprécient, et on fait ça depuis maintenant plus de 10 ans, hein. Et c'est vraiment une réussite au sens où nous, on est très contents des formes de collaboration qu'on crée. Bon, on va pas non plus, comment dirais-je, idéaliser ces formes d'intervention. On va pas dire qu'on va révolutionner l'éducation populaire par cette forme-là. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et moi, je me dis toujours que peut-être, si je peux jouer un rôle auprès d'un certain nombre de jeunes comme ça, du même genre de celui que des aînés ont joué avec moi, eh ben c'est positif, vous voyez.
Oui, c'est positif, mais en même temps, ça m'a fait penser, Gérard Noiriel, que vous qui avez dit au long de ces entretiens plusieurs fois déjà que vous opposiez cette vision que tout est politique, vous parlez beaucoup de la fonction civique de l'historien que vous êtes, mais quand vous travaillez à changer le regard des gens avec des spectacles, grâce au théâtre, quand vous travaillez au rapprochement des artistes, des chercheurs et du public, est-ce que c'est pas politique, ça? Et est-ce que c'est un problème?
Eh bien, je dirais que ça a des conséquences politiques, vous voyez? Il peut y avoir des conséquences politiques, mais c'est pas politique.
Mais votre
c'est pas
démarche,
la même chose.
Votre démarche, elle est politique. Quand vous dites civique.
Civique, c'est pas
c'est politique
oui.
au sens.
Oui,
bon,
alors là, il faudrait qu'on
terme.
S'entende par la définition des mots. Moi, je confonds pas le politique et le civique, mais je dirais que voilà, je défends l'autonomie de la recherche. J'essaye de traduire dans les spectacles les résultats de ces recherches, en montrant surtout les domaines qui sont abordés, donc ce que c'est qu'un préjugé, d'où ils viennent, comment ils se construisent, comment on peut les répercuter soi-même, etc. La déconstruction des catégories, retrouver les individus. Bon, par exemple, dans notre actuellement, on travaille question de race. Je parle des stéréotypes. Comment c'est enfermer un individu dans un seul critère de définition, sa couleur de peau, au détriment de tout le reste. Donc, il y a un petit travail comme ça qu'on fait avec les jeunes. Parfois, d'ailleurs, c'est aussi avec du grand public. On intervient aussi dans des associations, aussi la LDH, la Ligue des droits de l'homme ou autres. C'est pas uniquement réservé aux élèves. Et ce travail-là, voilà, c'est un travail scientifique. Après, évidemment, que ça aura des conséquences politiques, parce que
est-ce que c'est pas un peu facile de dire ça, Gérard Noiriel, d'une certaine façon, vous vous retranchez toujours derrière la science. Mais pour moi, vous êtes bien au-delà, là.
Mais si vous voulez, je ne dis pas que je fais de la science quand je transmets des connaissances. Mais je ne vois pas pourquoi on aurait le choix uniquement entre ces scientifiques ou ces politiques. C'est pas l'alternative, moi je la vois pas comme ça. Moi, la politique, si vous voulez, c'est là où je dois à Bourdieu. Bourdieu a une sociologie des champs, ce qu'il appelle les champs. Donc les champs de force avec des dominants, des dominés, et il distingue les différents champs. Donc il distingue le champ politique. Le champ politique, il est animé par des acteurs et des actrices qui ont une compétence politique dont le but est de prendre le pouvoir d'État. Si vous voulez, voilà, la politique. Alors évidemment, il y a des tas de gens qui vont définir la politique autrement. Mais moi, je définis la politique au sens classique de ce terme-là, et je ne confonds pas la politique et le pouvoir. Donc le civique là-dedans, si vous voulez, voilà, c'est une traduction de connaissances qui vont aider les citoyens et les citoyennes à une vision plus large
et
donc
se faire
à s'orienter politiquement, c'est-à-dire au moment où ils vont aller voter, d'une manière qui sera plus lucide. Et ça rejoint ma définition de la laïcité. Parce que c'est aussi, on n'a pas eu le temps de trop en parler, mais je me suis beaucoup investi là-dessus. Moi, je suis la conception progressiste de la laïcité qui nous vient de Durkheim. Durkheim s'est beaucoup investi sur l'éducation. C'était la même chose. Il disait, on doit émanciper les citoyens. C'est ça le fondement, l'idéal de la laïcité dans sa vision progressiste, c'est l'émancipation. C'est pas de dire aux gens comment ils doivent s'habiller et qu'est-ce qu'ils doivent penser, mais c'est de leur donner des outils pour qu'ils s'émancipent des formes de domination qu'ils subissent, quelles qu'elles soient. Et moi, je crois à ça parce que c'est aussi mon expérience. Voilà, ce que je dois à la science, c'est m'avoir donné des outils pour m'émanciper de toutes les formes de contraintes qui pesaient sur moi. Il en reste encore beaucoup. Mais enfin, je vais dire, voilà, d'avoir au moins une certaine autonomie par rapport à ces formes de pouvoir. Donc voilà, pour moi, ça, c'est pas politique au sens classique du terme, mais ça a des conséquences politiques, bien sûr.
Alors, est-ce que vous, qui avez toujours voulu faire de l'histoire comme une façon d'agir sur la société, d'émanciper les citoyens, de faire œuvre utile, oui, est-ce que vous estimez, après 40 ans de travail acharné, que vous avez été écouté, entendu, que des choses ont changé grâce à vos connaissances, grâce aux connaissances que vous avez apportées et que vous avez transposées, même dans différents langages, même ne serait-ce que dans l'enseignement de l'histoire? Comment regardez-vous les choses?
Si je veux être lucide, je ne peux être que pessimiste.
Hein? Mince.
Par rapport à l'efficacité, mais pas rien que de moi, de la recherche en sciences sociales, si vous voulez, on va de déception en déception dans nos disciplines. Ouais, Durkheim, lui, pensait dégager des lois, hein, des lois du fonctionnement des sociétés, etc. Et puis après, bon, il y a la croyance que Bourdieu a beaucoup défendue aussi dans la fonction émancipatrice de la sociologie, des sciences sociales. Et aujourd'hui, on voit bien que tout ça est limité et que même au sein des sciences sociales, aujourd'hui, on a une crise, à mon avis, qui est très profonde. Et donc, moi, j'en conclus, je dis à mes collègues et aux plus jeunes aussi, faisons un bilan. Essayons d'utiliser nos outils pour voir ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas marché dans ce qu'on a fait. Si moi, je me suis tourné vers l'éducation populaire, vers le théâtre, c'est parce que j'ai fait ce travail à un moment donné. Je me suis dit, voilà, moi, je passe mon temps de conférence en conférence, un peu partout, y compris dans le monde, puisqu'à l'école des hautes études, on est très tourné vers l'international, à répéter à tout le monde qu'il ne faut pas être raciste, que ceci, que cela, voilà, en donnant des arguments. Enfin, je ne veux pas caricaturer, mais le produit de mon travail et quel impact, je me disais, je parle toujours à des gens qui sont convaincus d'avance. C'était ça le problème. Donc c'est pour ça que je me suis rapproché des artistes pour qui m'apprennent aussi d'autres langages, toucher les émotions des gens, etc., etc. Mais je pense, voilà, qu'il faudrait aussi avoir le courage de faire un bilan autocritique de notre démarche, parce qu'on est dans une situation qui effectivement est extrêmement difficile. Alors en même temps, vous savez, quelle que soit l'époque, vous voyez très bien que les intellectuels, les savants, etc., ils n'ont pas joué un rôle fondamental dans l'évolution des sociétés, et qu'il y a des... L'histoire, c'est aussi des périodes, vous voyez, où il y a des creux, il y a des remontées, on n'est pas à la fin de l'histoire. Moi, je crois qu'on est une période difficile, mais on n'est pas à la fin de l'histoire. Et le travail qu'on fait aujourd'hui, il peut aussi avoir de l'utilité pour les générations suivantes. Et puis, moi, j'ai toujours dit, on n'a pas vocation à devenir majoritaire, mais on a une vocation à résister aux forces dominantes, etc. Mais voilà, bon, on sait très bien que quand on va un peu à contre-courant d'une tendance dominante, on s'expose à se faire, voilà, critiquer. Et donc, moi, je l'assume, enfin, ça ne me gêne pas particulièrement.
Vous n'avez d'ailleurs jamais couru les honneurs. Vous avez toujours été même un pied dedans, un pied dehors, en marge de la recherche académique au sens strict du terme, aussi bien par votre façon d'être que par toute votre démarche d'éducation populaire. Vous le vivez bien, ça ?
Oui, ben, j'ai même eu un prix de l'Académie française et je me sentais tellement gêné que je n'ai pas été à la réception de ce prix, ce qui était quand même une certaine forme d'impolitesse. Donc je m'en excuse auprès des académiciennes et des académiciens qui avaient voté pour mon histoire populaire de la France, bon, etc. Mais je n'y arrivais pas. Enfin, je veux dire, c'était pour moi, voilà, c'est une forme de timidité qui me vient de mon enfance. Et quand je suis dans des situations où j'ai peur qu'il y ait une dimension conflictuelle, si vous voulez, ou que je me laisse emporter par mes émotions, ou voilà, je préfère me tenir à distance. Donc effectivement, j'ai jamais recherché ces formes-là d'honneur, ni au niveau des postes. Hein, au niveau des postes, moi j'ai eu énormément de chance, parce que comme on l'a dit, voilà, Jean-Claude Chambourdon m'a recruté. Après, quand j'étais dans le Saint-des-Saints, c'est devenu plus facile. Enfin, j'ai quand même fait 9 ans comme assistant à l'ENS. Hein, et puis après, bon, je suis passé à l'école des hautes études. Pour moi, ma carrière était terminée. J'ai pas, comme certains, visé le Collège de France, visé l'Académie, visé... Il y a des gens, ce sont des éternels candidats. J'en ai vu autour de moi. Bon, je veux dire, chacun fait comme il veut. J'ai pas de jugement moral à porter, mais c'était pas mon truc. Moi, j'étais dans un milieu, je dirais, qui me satisfaisait parce que c'était finalement, voilà, le monde de la recherche, un monde où on pouvait garder son autonomie, où on avait très peu de contraintes, donc avec des étudiants formidables. Bon, donc tout ça était, moi, j'ai eu énormément de chance. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé à franchir les étapes. Ouais.
Dans les années 90, je crois que c'était en 1996, vous avez écrit un livre sur la crise de l'histoire, Gérard Noiriel. Vous parliez de l'éclatement de la discipline histoire, vous parliez de la multiplication des débats publics sur l'histoire. C'était en lien avec la montée des polémiques autour de la mémoire, notamment mémoire de Vichy, loi mémorielle, etc. Est-ce qu'aujourd'hui la discipline est apaisée ?
Ce que je dirais par rapport à la crise de l'histoire, c'est un élément dont j'ai pas beaucoup parlé, mais qui est pourtant très important pour moi, c'est un idéal de vérité. Et même d'ailleurs, les problèmes que j'ai eus, ou que j'ai, on en parlait tout à l'heure, c'est souvent parce que j'essaie de défendre une vérité. Alors, peut-être que je me trompe, mais...
C'est une
vérité, et pour moi, voilà. Et donc, ça s'articule à une autre dimension, qui est la question de la trahison. La question de la trahison, voilà, dans mon histoire, elle est très importante, puisque je l'ai été confronté à ça dès mon enfance. C'est-à-dire, dans ce que j'ai vécu dans l'enfance, par rapport à ma mère, la question de la trahison, c'était, est-ce qu'il faut le dire ou pas le dire? Vous comprenez? Par rapport à la violence qui existait dans la famille, où ma mère me disait, faut pas le dire, ou même moi, parfois, j'ai des souvenirs où mon père m'avait frappé, j'avais des marques au visage, fallait aller à l'école, et où fallait le cacher, et fallait pas le dire, vous voyez. Et ce truc du dire, du pas dire, donc cette question de vérité, ça m'a traversé toute ma vie. Et après, quand j'ai eu la possibilité de dire la vérité, je me suis dit, maintenant, je dois la dire. Et ça m'a mis en position difficile, parfois, par exemple, même par rapport à des collègues que j'estimais par ailleurs, bon, comme Jacques Julliard, ou la confusion du rôle du journaliste et de l'historien, de quel droit un historien va utiliser sa compétence, enfin sa notoriété d'historien pour défendre ses idées politiques. Pour moi, voilà, je ne pouvais pas ne pas le dire, si vous voulez, voyez, parce que ça aurait été une trahison. Et j'ai eu le même problème quand j'étais à Princeton, avec ce que j'ai pu voir avec l'historienne féministe John Scott, des usages de Derrida, etc. Donc je l'ai écrit, elle m'en a beaucoup voulu. Ça a créé, voilà, des formes de rejet que j'ai subies, qui m'ont fait souffrir, mais que je ne regrette pas, parce que je ne pouvais pas faire autrement. Alors peut-être qu'avec le temps, j'ai appris à écrire de manière moins violente, plus respectueuse, je ne sais pas. Mais effectivement, enfin, la discipline historique est une discipline qui est moins quand même conflictuelle que la sociologie, hein. Là, je dirais aujourd'hui, ce qui me frappe et ce qui me peine terriblement, c'est de voir les conflits internes dans le milieu des sociologues. Si vous prenez, par exemple, la question Palestine-Israël, etc., vous voyez les formes de divisions extrêmement violentes qui ont pu se créer au sein, enfin, du petit milieu qui travaille sur ces questions-là, je ne veux pas généraliser, mais qui créent quand même des tensions, et on aurait intérêt à y réfléchir pour trouver des moyens d'exprimer nos différences sans pour autant s'insulter, quoi. Voilà, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe aujourd'hui.
Gérard Noiriel, quand vous regardez le passé avec votre regard au présent, le petit Gérard maltraité par ses camarades alsaciens, par son père violent, maltraité par l'éducation nationale au début. Qu'est-ce que vous vous dites au regard de ce que vous êtes devenu?
Ben, c'est surtout ce qui reste en moi, c'est je déteste les gens qui se peaufinent leur image de victime. Je déteste la victimisation. Ça suscite en moi, mais c'est même pas de l'ordre.
Je vois, vous avez souci sur votre chaise.
Voilà, c'est de l'ordre presque du réflexe, quoi. Parce que, effectivement, je me suis toujours battu contre ça. Donc, j'ai lu tout ce qui a été, vous savez, sur la résilience, sur ceci, cela, bon. Et j'ai jamais été complètement satisfait, si vous voulez, le merveilleux malheur de Cyrulnik, etc., etc., parce que je me retrouve pas trop là-dedans. Je veux dire, moi, j'ai des traumatismes, oui, mais ça ne suscite pas une mémoire, c'est des flashs. C'est des moments comme ça très forts qui ont déterminé évidemment des comportements. Je viens d'en parler par rapport à la question de la trahison, mais qui ont été intellectualisés. C'est-à-dire, j'ai eu cette capacité aussi d'une violence physique que j'avais en moi, puisque j'étais un enfant, un élève bagarreur. J'étais bagarreur. C'est pour ça que j'ai été séduit au départ par des penseurs qui avaient un langage violent. Marx, dictature du prolétariat. Ça évoquait des choses en moi. Je comprenais pas trop ce que ça voulait dire, mais voilà. Puis après, Bourdieu. Bourdieu était, voilà, c'était un sociologue virulent, violent, hein, dans son truc. Ah, j'étais séduit aussi par ça. Après, je me suis dit, mais tu croyais que c'était par rapport à leurs idées intellectuelles, mais en fait, c'était un réflexe primaire, quoi. Donc, j'ai analysé en moi aussi ces moments-là, et le langage, l'accès à la langue, au discours, à l'écriture. Moi, je me suis discipliné par l'écriture. J'ai passé l'essentiel de ma vie à écrire, avec des moments aussi d'engagement, mais surtout, voilà, dans l'écriture, dans la discipline de la science, qui est une discipline d'écriture.
Donc vous êtes un peu passé de l'émotion à la raison en grandissant, quoi?
Ben, disons, d'une combinaison entre l'émotion et la raison. D'une raison animée par l'émotion et d'une émotion nourrie par la raison.
Je vous charrie. Ouais, un grand merci pour ces 5 entretiens.
Ben, merci à vous.
C'est à voix nue avec Gérard Noiriel, réalisation Asia Weber, prise de son Frédéric Héroux et Maël Larfassour, chargé de programme à voix nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.